Notre prochaine invitée, Madame Aissatou Sidibé, est infirmière clinicienne. Elle exerce dans différents secteurs de la santé depuis maintenant plus de 10 ans. Tout d'abord en France, durant 3 ans dans le service de soins intensifs, en hématologie et depuis juin 2011 en cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal, en médecine cardiaque et aux urgences. En parallèle à ses activités rémunérées, Aissatou fonde et assume bénévolement la présidence de l'OBNL Vivre sans fibrome, dont la mission est d'améliorer la santé globale des femmes atteintes du fibrome utérin au Québec. Madame Aissatou Sidibé, bonjour.
Bonjour, monsieur Tapleur.
Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Ça va, on tient le coup, on tient le coup. Alors, dites-moi, on va être très éducatif aujourd'hui, d'accord? Et je vais cheminer avec vous pour essayer de mieux comprendre cette maladie. D'abord, qu'est-ce que c'est que le fibrome?
Alors, le fibrome utérin, en fait, c'est une tumeur qui se trouve au niveau de l'utérus. C'est pas du tout cancéreux, qui peut se retrouver dans différents endroits au niveau de l'utérus, à l'extérieur, à l'intérieur ou entre les muscles, et qui, chez certaines femmes, provoque des symptômes très handicapants. Donc, on parle quand même d'une femme sur 5 en âge de procréer, et une femme sur 3 des femmes noires. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais on n'en parle pas beaucoup et ça peut avoir vraiment un impact aussi bien pour les femmes que pour les médecins, en fait.
D'accord. Avant de savoir quels sont les impacts de la maladie, et clarifions quelque chose par rapport aux femmes noires. Comment expliquez-vous qu'elles ont un taux plus élevé de la maladie que les autres personnes?
Alors, monsieur Saint-Fleur, il n'y a pas beaucoup de recherche qui a été faite, en fait, sur le fibrome utérin. Avant, on enlevait l'utérus d'une femme quand elle avait des fibromes utérins. En 2020, on enlève encore l'utérus d'une femme lorsqu'elle en a trop. Il y a d'autres possibilités qui se font, mais c'est pour vous dire qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur cette maladie, sauf qu'on sait qu'il y a des facteurs de risque, comme l'obésité, par exemple. C'est un problème génétique aussi, héréditaire. Donc, si votre mère a eu des fibromes, vous aussi, vous pouvez avoir un risque de fibrome utérin. Et il y a aussi tout ce qui touche aux perturbateurs endocriniens. Il y avait eu une étude en 2012 aux États-Unis qui avait démontré que la permanence, donc les produits sur les cheveux que les femmes noires utilisent, peuvent avoir un impact, en fait, sur leur santé. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de recherche faite à ce niveau-là, on ne pourra pas mettre vraiment le doigt sur le véritable problème.
D'accord. Qu'est-ce qui explique ce manque de recherche, de travaux de recherche sur cette maladie?
La santé des femmes, vous voyez, on parle beaucoup d'égalité homme-femme dans le milieu du travail, au niveau de la société, mais au niveau santé, la santé des femmes a vraiment beaucoup de retard par rapport à un homme. Déjà, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les femmes ont tendance parfois à ne pas être prises au sérieux par rapport à leurs symptômes. C'est-à-dire que tout ce qui touche aux menstruations, tout ce qui touche aux douleurs pelviennes vont être perçus par des gynécologues comme des choses normales. C'est pas normal d'avoir des douleurs intenses pendant ses règles. Ce n'est pas normal de saigner abondamment durant ses menstruations. Donc, les symptômes vont faire en sorte que beaucoup de personnes vont avoir tendance à banaliser ça, sachant que ça va être un frein. Et il y a aussi notre part de responsabilité, c'est qu'il faut parler. Il faut dénoncer quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et quand il s'agit à la santé intime, quand il s'agit à des problèmes qui touchent la fertilité, ben chez nous, culturellement parlant, on n'en parle pas beaucoup. Donc ça va être tabou, mais si on n'en parle pas, on ne peut pas vous aider. Donc tout ça, en fait, ça va être des freins un peu à que la maladie va avoir beaucoup, beaucoup de retard par rapport à d'autres maladies, par exemple. Tout comme l'endométriose.
D'accord. Et, mais dites-moi, comment sait-on qu'on est atteint de cette maladie? Parce que les médecins déterminent que les douleurs sont très souvent le cas, se trouvent dans la normalité des choses. Donc, comment on fait pour prendre conscience que, ah, c'est un peu plus que ça, est-ce qu'il faut consulter, est-ce qu'il faut faire des échographies, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
C'est une très bonne question que vous me posez, monsieur Saint-Fleur. Déjà, comme je vous ai dit, si vous savez que dans votre famille, il y a des personnes, votre mère, votre cousine, votre sœur qui est porteuse de fibrome utérin, vous-même, vous savez que vous allez être beaucoup plus vigilante lorsque vous allez avoir des premiers symptômes. Les premiers symptômes, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des saignements importants pendant les menstruations, plus que d'habitude. Ça va être aussi des douleurs beaucoup plus importantes que ce que vous avez d'habitude. Et un facteur aussi, un symptôme qu'on remarque beaucoup, c'est vraiment un gonflement au niveau du ventre. Beaucoup de femmes se plaignent parce qu'elles vont avoir subitement un ventre d'une femme enceinte, sachant qu'elles ne sont pas enceintes. Donc ça, c'est des signes avant-coureurs qui nous disent, tiens, ça ne marche pas, il y a un problème. On peut même toucher chez certaines personnes une masse, en fait, quelque chose de dur dans leur ventre. Ça, c'est pas normal, il faut aller consulter. Il y a même des femmes qui vont avoir envie de drainer, à ce moment, assez souvent, parce que le fibrome utérin va écraser la vessie. Donc, elles vont avoir envie d'uriner très souvent. Mais ce n'est pas des choses qu'on dit à tout le monde. C'est très intime, vous comprenez, c'est très personnel. Donc, avec beaucoup d'éducation et d'information, si une femme sait qu'elle peut avoir tous les symptômes d'un fibrome utérin, elle ira consulter. Mais généralement, on peut le savoir lorsqu'une femme veut tomber enceinte, donc quand elle est dans un processus de fertilité. Et là, en fait, à travers la première échographie, c'est là qu'on dépiste qu'il y a des fibromes utérins. Mais nous, on peut agir en amont, et c'est pour ça que l'association Vivre sans fibrome existe, d'où l'intérêt de faire une campagne d'information et de sensibilisation pour ne pas attendre entre... On ne sait rien et l'heure est grave, on vous opère. Parce que l'opération, c'est quand même une grosse opération. Or, on vous anesthésie générale. En fait, M. Saint-Fleur, c'est comme une césarienne. Spécifiquement comme une césarienne. D'accord. Donc, l'anesthésie générale, puis 4-5 mois, 4-5 jours d'hospitalisation, 2 mois de convalescence. Donc, ça a quand même des conséquences lourdes lorsqu'il est question d'agir. Donc, on agit en fait trop tard. Nous, on veut agir en amont.
En amont. Mais dites-moi, et une fois qu'on sent ces douleurs, on fait l'échographie et l'échographie détermine l'existence de fibromes. D'accord ? Et quelles sont les questions qu'on doit poser lors de la consultation médicale qui seraient pertinentes par rapport à cette maladie ?
D'accord. Alors, premièrement, au niveau des fibromes utérins, la localisation.
D'accord.
En fonction de la localisation du fibrome, vous allez savoir si vos symptômes sont reliés ou pas. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous allez savoir aussi si vous avez un désir de grossesse et que, par exemple, votre fibrome est à l'extérieur de votre utérus, vous savez que vous n'allez pas avoir de conséquences. Parce
D'accord.
que le fibrome est à l'extérieur. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Si votre fibrome était à l'intérieur, vous allez avoir des problèmes au niveau de votre grossesse parce que justement, ça va être à l'intérieur
D'accord.
de l'utérus. Donc, c'est des choses comme ça que vous savez, que la femme va pouvoir poser au gynécologue. Et il y a aussi la chose très importante, c'est au niveau du traitement. Donc, au niveau du traitement, c'est de savoir quel est le bon traitement qui correspond à la personne qui demande, en fait, à être soignée. Donc, au niveau des traitements, c'est sans attente. Donc, on va observer les symptômes. Soit on peut proposer une chirurgie ou un médicament.
D'accord.
Et dans tous les cas, on n'attend jamais parce qu'il y a toute une hygiène alimentaire, au niveau de l'activité physique, qu'on peut faire pour maintenir sa santé. Et généralement, le médecin propose, on ne sait rien, si c'est là en fait que nous aussi la situation intervient parce qu'on est beaucoup dans la prévention. Et ça, beaucoup de femmes ne savent pas.
Extrêmement intéressant. Mais dites-moi, on a parlé tout à l'heure, vous avez mentionné médicaments. Et quel est l'impact des médicaments sur la maladie en tant que telle?
Alors, très bonne question. Encore, vous n'avez que des bonnes questions, c'est bien.
J'ai fait ma recherche, donc.
C'est très bien. À l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de médicament qui guérit du fibromyalgie.
D'accord.
Alors, c'est ce que je vous disais, au niveau de la recherche, il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Est-ce que c'est parce que ça touche plus la femme noire que la femme blanche? On ne le sait pas. Mmh. Il faut vraiment faire plus d'études là-dessus, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, en 2020, il n'y a aucun médicament qui guérit du fibromyalgie. Il y a des médicaments qui vont permettre de diminuer les symptômes, mais attention, parce que certains médicaments vont avoir plus d'effets négatifs que vos propres symptômes.
D'accord.
Il y a des médicaments où vous allez avoir en fait tous les symptômes d'une ménopause. Déjà, vous allez être ménopausé, mm-hmm. vous allez avoir des bouffées de chaleur, vous allez avoir des douleurs lombaires. Donc là, il s'agit en fait de voir si le médicament en vaut la peine ou pas. Mais encore une fois de plus, en 2015, c'est ça, il y a 5 ans, un médicament star, un peu, que j'aime utiliser comme mot, mm-hmm. avait été mis sur le marché, qu'on appelle le Fibristal, et qui a été interdit 5 ans, donc en 2020, 5 ans après, parce que justement, il avait causé la mort en Europe de 100 mm-hmm. personnes pour des problèmes hépatiques. Donc nous, notre rôle ici, quand on a reçu cette information, c'est qu'on l'a diffusée à travers nos plateformes. Et là, on est souvent en contact avec la compagnie pharmaceutique du médicament mm-hmm. pour informer les femmes justement sur la conduite à tenir. Nous, cette année, on est très contents parce que le médicament a été suspendu. Mm-hmm. Mais c'est pour vous dire en fait le risque même de prendre un médicament pour soigner un problème aussi banal. C'est qu'il y a un problème quelque part. Vraiment.
D'accord. Le nom du médicament, pour que les gens le saisissent très bien, c'est bien Fibristal.
C'est ça, c'est le Fibristal, effectivement. C'est que pour qu'il y ait un médicament qui soit... parfois, on peut attendre même 25 ans là, avant qu'il ait pris ses marques, ses preuves. Là, c'est vraiment des médicaments qui ont peu de temps d'existence. Donc, mm-hmm. c'est un peu ça, ce risque-là. Moi, personnellement, je l'avais pris, j'avais eu des effets secondaires mmh. assez importants. Et on va vous le dire, même moi, c'était un gynécologue qui m'avait dit, mais chez la femme noire, ça ne sert à rien, ça n'agit pas. Donc, pourquoi le prendre, sachant que c'est quand même un médicament qui coûte cher, mmh. cher à la femme et qui coûte cher à la société. Et en plus de ça, on va vous le donner en vue de vous opérer ou pour diminuer vos symptômes. Mais dans tous les cas, votre fibromutérin de 15 cm ne va pas disparaître du jour au lendemain.
D'accord. Mais dites-moi.
Ça, l'association n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mm-hmm. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous donner, de donner à la femme toute l'information possible pour qu'elle puisse faire des choix éclairés. C'est ça ce qui est plus important.
D'accord. Et dites-moi, j'imagine que quelqu'un qui est atteint de la maladie doit se poser plusieurs questions. Et par rapport à sa santé, tant physique qu'émotionnelle ou mentale. Et est-ce que les femmes en général vont se demander, est-ce qu'il y a un risque sur ma fertilité? Est-ce que ça risque d'affecter ma vie sexuelle, ma libido? On a parlé tout à l'heure de ménopause et d'effets secondaires, mais par rapport à ces deux points qui sont plus d'ordre psychologique, est-ce qu'il y a un impact?
Vous n'avez que des bonnes questions, je dis ça. Alors, malheureusement, chaque situation est différente. Mm-hmm. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que ça va du tout. C'est du cas par cas.
C'est du cas par cas, d'accord.
Il y a des femmes qui vont se poser la question, est-ce que mon fibromutérin, après une chirurgie, va revenir? Chez certaines femmes, oui. Dans d'autres cas, non. Et il faudrait vraiment faire des études plus poussées, mm-hmm. individuelles et personnalisées, pour qu'on puisse avoir des datas, des statistiques significatives. À l'heure actuelle, c'est vraiment du cas par cas, mais les questions qu'une femme peut se poser, généralement, c'est souvent les mêmes. C'est est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que je peux avoir d'autres moyens qui existent que la chirurgie? Par exemple, dans certains pays comme la France, on peut traiter le fibrome utérin par ultrasons. Donc ça, c'est quelque chose de révolutionnaire aux États-Unis aussi, sans passer par une chirurgie, par exemple.
D'accord.
Il y a aussi l'embolisation artérielle qui se fait en radiologie. Donc ça, c'est des choses que nous, on met en avant, l'association met en avant pour proposer ça aux femmes et pour qu'on milite tout ensemble pour que la femme qui se trouve sur le continent africain, en Haïti ou en Europe, puisse avoir la même chance d'être soigné.
D'accord. Voilà. Okay. Et alors, maintenant, j'aurais pu continuer à vous poser plein de questions parce que j'en ai par rapport à cette maladie. Et vous avez souligné à plusieurs reprises l'association. Et comme vous savez, en radio, le temps file, surtout quand c'est bon, hein. Et vous nous donnez vous nous éclaircissez de manière extrêmement fructueuse. Parlons un peu de cette association. Comment vous êtes venu à créer une association justement pour aider les autres femmes?
Donc, comme vous l'avez si bien dit, moi je suis infirmière. Maintenant, ça va faire depuis 12 ans que je suis infirmière. Moi, je n'avais pas du tout travaillé en gynécologie. Même à l'heure actuelle, je travaille en cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et en fait, en 2013, je suis tombée malade. Donc j'avais vraiment des problèmes de règles abondantes, de douleurs pelviennes. J'avais vraiment de la difficulté aussi parce que je faisais de l'anémie. Et à la suite de ça, en fait, ça a été une première hospitalisation. Vous savez, nous, quand on immigre dans un pays, généralement, on immigre seul. Pour certaines personnes, moi, ça a été mon cas. Donc, en tant que migrante, être dans un pays où on ne connaît pas encore la culture du soin, même en tant qu'infirmière, ça peut être un choc. Donc, moi, ça avait vraiment été un choc et en fait, j'avais besoin de sortir de mon isolement pour rencontrer d'autres femmes comme moi. Et j'ai créé un blog du nom de Fibromel. Et avec ça, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi en quête d'informations. Donc là, en 2020, on en parle de plus en plus, mais il y a 6 ans en arrière, même 7 ans en arrière, en 2013, le fibrome utérin, on n'en parlait pas tant que ça. À travers ce blog-là, avec d'autres femmes, on a monté l'association parce qu'on s'était dit, ben, finalement, ce n'est pas juste un problème uniquement au niveau pathologique, mais c'est un problème de société. C'est un problème de société quand on prend un médicament, quand il y a des frais qui s'accumulent là-dedans, quand il y a une hospitalisation. Donc, ça, il y a d'autres enjeux sociétals, culturels, médicaux, psychologiques aussi, qui rentrent en jeu. Et donc, nous, on milite pour ça. On milite aussi pour une meilleure reconnaissance de cette maladie, pour qu'on puisse être enfin écouté et soigné comme il le faut.
Est-ce que finalement, vous êtes écouté?
Oui.
Non, je posais la question, est-ce que vous êtes écouté?
Oui, quand on frappe à la bonne force, tout comme vous le faites aujourd'hui, et en fait cette année, en 2020, nous avons été reconnus comme un organisme de bienfaisance par le gouvernement canadien.
D'accord.
Qui a légitimé notre association, mais ça prend des moyens et ça prend du financement. Le nerf de la guerre, parce que la santé a un prix. Je pense que toujours que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un prix. Et avec tout le travail qu'on fait d'information, de sensibilisation, il nous arrive même régulièrement de faire des ateliers, des conférences avec des professionnels de la santé. Ben, malheureusement, l'association n'a aucun financement. Et toutes les femmes qui travaillent au sein de cet organisme, c'est des femmes qui travaillent bénévolement. Donc, on fait beaucoup d'appels aux dons, on fait beaucoup d'appels aussi à nos membres, parce que sans membres, un organisme ne vit pas. Et on a pu constater qu'en 2020, la santé était une affaire de priorité. Donc, on travaille énormément fort pour qu'on puisse atteindre notre objectif aussi.
D'accord. Et l'association s'appelle, je reprends encore parce que je veux que les femmes entendent et faire appel à vous pour l'accompagnement, c'est Vivre sans fibrome, c'est le chiffre 101-00. Alors, pourquoi avez-vous choisi justement d'appeler l'association Vivre sans fibrome?
Alors, c'est un jeu de mots. de mes collègues à l'époque, quand je suis tombée malade et que j'avais cette idée de créer l'association. C'est un jeu de mots parce que quand on entend vivre sans fibrome, le vivre sans fibrome S-A-N-S, mm-hmm. c'est un peu l'idéal qu'une femme espère dans une vie, c'est de vivre sans fibrome. Le chiffre 100, 1-0-0, c'est pour montrer la pluralité. C'est sûr qu'une femme ne pourra jamais avoir 100 fibromes à l'intérieur mm-hmm. de son utérus, mm-hmm. ne le sait pas, mais le chiffre peut s'élever et peut être très élevé. Par exemple, moi j'avais 17 fibromes. D'autres femmes de mon association, certaines avaient jusqu'à 30 fibromes. C'est énorme.
D'accord.
Et il y avait aussi cette connotation au niveau du sang, le sang, S-A-N-G, parce que c'est l'un des premiers symptômes à travers des règles hémorragiques où on peut savoir justement si on a des fibromes utérins. Donc à travers l'association, je voulais englober toutes les femmes qui étaient atteintes de fibromes utérins et qui pouvaient aussi se reconnaître à travers notre organisme. Parce que ce n'est pas juste mon association, c'est l'association de toutes ces femmes-là.
D'accord. Alors, si il y a des auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient soit devenir membre, soit vous joindre, ou de faire un don, comment tout ça se déroule?
Alors, on a créé le premier site internet sur le fibrome utérin au Québec, mm-hmm. et nous en sommes très fiers puisqu'il n'y avait absolument rien. Il existe une association sur le fibrome utérin à Toronto, au Canada, une association anglophone. Là, mm-hmm. nous avons créé vraiment le premier site internet bilingue qui a été répertorié sur le site de l'association des gynécologues et obstétriciens du Québec, où on peut trouver vraiment toute l'information et une expertise aussi québécoise, mm-hmm. professionnelle québécoise, parce qu'il était très important pour nous de pouvoir consulter s'il y avait un problème. Et en fait, sur notre site internet, vous trouverez nos activités, mm-hmm. vous trouverez aussi des références médicales, parce qu'on a créé aussi un partenariat avec une clinique de fertilité, mm-hmm. où on peut juste à travers un questionnaire avoir un rendez-vous avec une gynécologue africaine, aussi. Donc, si je le dis, je le mentionne, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, ça touche beaucoup la femme noire. Donc, à un moment donné, la femme aussi a besoin de s'identifier et de se faire comprendre culturellement.
D'accord.
À travers tous les tabous qui englobent ça. Et aussi, on peut avoir justement un espace privé, anonyme, où la femme pourra justement trouver toute l'information sur le fibrome utérin. Elle n'aura pas besoin d'aller sur un site internet aux États-Unis ou en France. Ici, on a l'expertise. Maintenant, il nous faut de la visibilité.
D'accord.
Alors, aujourd'hui, mm-hmm. c'est important. On a besoin des médias, on a besoin des politiciens, on a besoin de la communauté, parce que seul, on n'y arrivera pas.
Quel est votre site internet?
Alors, c'est très simple. C'est vraiment vivresansfibrome.ca.
D'accord. Et vous avez également une page Facebook?
Assez rapidement.
Mm-hmm. Vous avez également une page Facebook?
On a une page Facebook qui est très active. Nous avons aussi une page Instagram, parce mm-hmm. que faute de moyens, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et le côté positif avec le Covid, c'est que nous, notre principale communication se faisait déjà sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous a permis de mettre en place assez facilement nos activités pour toucher aussi un maximum de femmes partout au Québec et même au-delà.
Alors, Madame Aïssatou Sidibé, vous savez, le temps court à la radio. Je vous dis un grand, grand merci pour...
Je cherche mon souffle. Parce que pour moi aussi, c'est de parler en peu de temps d'une cause qui me tient à cœur. Mais il y a tellement de choses à dire.
Oh, vous en faites pas, vous allez revenir. L'invitation est lancée.
Voilà,
je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis on continue la conversation pour informer les auditrices de la maladie. Merci beaucoup.
Informer, sensibiliser et éduquer.
Merci, voilà. Allez, au plaisir.
Je vous souhaite une pensée de faire et ainsi qu'à tous nos auditeurs et nos auditrices.
Merci.
Merci à vous.